VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Kenya, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté ce lundi pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre, organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août. Le rassemblement le plus important, 3000 personnes, a eu lieu à Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition Raila Odinga dans l'ouest du pays. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants à la fin du rassemblement. À Nairobi, environ 2000 partisans de l'opposition ont manifesté dans le centre-ville. Par contre, à Mombasa, la seconde ville du pays dans le sud-est, quelques dizaines de personnes seulement ont exprimé leur mécontentement. Situation due, selon les experts, au fait que le président Uhuru Kenyatta y faisait campagne pour le scrutin du 26 octobre. Pour sa part, l'opposition n'organise pratiquement pas de meetings électoraux. Elle estime inutile de faire campagne pour une élection qu'elle menace de boycotter si ses exigences en amont du scrutin ne sont pas satisfaites. Libéria, les Libériens se rendent aux urnes demain mardi pour élire leur nouveau président et leurs députés. Le scrutin doit notamment permettre de choisir un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, élue pour la première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après deux mandats successifs de 6 ans chacun. 2 100 000 électeurs au total sont appelés aux urnes. Au Nigeria, plus de 2300 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, détenus dans des camps militaires, comparaissent devant la justice à partir d'aujourd'hui. Ces procès vont se tenir dans le plus grand secret et soulèvent déjà beaucoup de scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérian. Aloïs Bigirimana.
La justice va d'abord juger quelques 1670 personnes détenues dans un centre militaire d'Okahinji. Les dossiers de 651 prévenus du camp Giwa à Maiduguri, capitale du Borno et épicentre du conflit, suivront de près. La plupart sont détenus depuis des années dans le secret, sans avoir vu ni avocat ni juge. D'après Matthew Page, ancien spécialiste du Nigeria au département d'État américain, il s'agit du premier procès significatif de suspects de Boko Haram. Les chiffres officiels indiquent que seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec l'insurrection djihadiste. Les audiences auront lieu à huis clos, au sein même des centres de détention militaire. Un avocat nigérien a estimé que cette mise à écart des médias envoie un mauvais signal d'une justice non rendue ou de compromission. Amnesty International avait alerté en juin 2015 sur les conditions de détention horribles des centres militaires. Cette ONG disait que 7000 personnes seraient mortes de faim, d'étouffement ou de torture depuis 2011.
Au Mali, plusieurs organisations de la société civile et des associations de jeunes ne sont pas d'accord avec les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon lesquels presque aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Des activités ont été organisées dans le pays pour réfuter ces conclusions de l'ONU, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies a suscité beaucoup de débats au Mali, car le pays entre dans une période électorale intense, s'achevant avec une présidentielle en 2018. Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Malgré ces développements positifs, nous devrons être conscients que les échéances de 2018 s'approchent à grands pas et que les défis restent énormes. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles.
Le chef de la diplomatie malienne trouve qu'il y a eu plein d'actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali.
Grand fut l'étonnement du gouvernement du Mali face à cette affirmation qui, à première vue, donnait l'impression d'un immobilisme généralisé dans la mise en œuvre de l'accord. Malgré les efforts consentis par le Mali et par la communauté internationale, le gouvernement du Mali reconnaît certes les difficultés qui ont jalonné le processus de paix, mais estime que des progrès remarquables ont également été enregistrés dans la mise en œuvre de cet accord issu du processus d'Alger.
Certaines associations pensent que le rapport des Nations Unies sur le Mali ne reflète pas la réalité du terrain.
Je me nomme M. Koulibaly Bahou, professeur de théorie et développement. Nous savons réellement souvent que les choses qui sont derrière ces accusations-là. Parce qu'il n'y a pas de critères objectifs. On peut se poser la question, quels sont les critères sérieux qu'ils ont utilisés pour montrer réellement que le gouvernement malien n'a aucun fait pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord, ce qui est très grave comme affirmation.
Les organisations de la société civile sont étonnées par les rapports de l'ONU qui, selon eux, accusent le Mali en oubliant les autres acteurs du processus.
Je m'appelle Dr Lamine Sandi, je suis enseignant-chercheur. Vous ne pouvez pas prétendre nous accompagner et ne pas observer la neutralité. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Okay? Il faut aussi reconnaître que l'État malien aussi est un grand acteur dans ce processus, mais l'État malien est ignoré.
Certains jeunes qui étaient dans les rues de Bamako contre le projet de révision constitutionnelle trouvent que c'est le sursis de ce projet qui est à la base du mécontentement des Nations Unies.
Kekoro Keta, je suis un jeune diplômé sans emploi. Si c'est pour s'appuyer sur le référendum que l'ONU dit qu'il n'y a eu aucune avancée par rapport à la situation au Mali, moi je pense qu'ils doivent tenir compte des réalités socio-culturelles du Mali. Parce que voter, faire le référendum sans tenir compte de ces réalités peuvent nous amener dans l'avenir à d'autres conflits.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RDC, un casque bleu a été tué aujourd'hui dans l'attaque d'une base de l'ONU dans l'est du pays par un groupe armé d'origine ougandaise, les Forces démocratiques alliées, ADF. La base de Mamoun Diomba a été attaquée à 5h30 entre Kamango et Mbao, a souligné la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. 12 casques bleus ont été blessés, a précisé une porte-parole de la MONUSCO au sujet de cette attaque dans le territoire de Beni, qui est l'une des divisions administratives de la province du Nord Kivu. Où des affrontements à l'arme lourde avaient opposé dimanche des membres des ADF à l'armée nationale congolaise, les FARDC. Ces combats font suite à l'enlèvement de plusieurs dizaines de civils samedi dans le territoire de Beni, un kidnapping que les autorités congolaises attribuent aux ADF. De Goma, chef-lieu du Nord Kivu, plus de détails avec notre correspondant Charlie Kasereka.
Le samedi dernier, vers la fin de l'avant-midi, ces islamistes des ADF ont intercepté au total 9 motocyclettes à bord desquelles se trouvaient des passagers et d'autres passants qui se dirigeaient vers la ville de Beni. La société civile sur place parle d'au moins 32 personnes qui ont été prises en otage. 7 femmes ont été relâchées par ces rebelles et 3 hommes ont réussi à s'échapper. Et pour l'instant, on ignore le sort des 22 otages restés entre les mains de ces rebelles qui ont exécuté sur place 3 personnes avant d'incendier toutes les 9 motocyclettes devant leur femme rescapée qui s'est confiée à l'organisation de la société civile sur place à Beni, CEPADO en sigle. L'un des porte-parole de l'armée dans la région de Beni a indiqué que pour l'instant, la route Beni-Kamango reste bloquée jusqu'à nouvel ordre. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
En RCA, la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique, mène une opération militaire de grande envergure à Bukaranga dans le nord-ouest du pays. Objectif, chasser de cette ville un groupe armé local baptisé 3R. Eric Manirakiza.
La MINUSCA a engagé des moyens importants, y compris des hélicoptères. Cette opération a été lancée depuis samedi matin. Elle est destinée à expulser les éléments d'une groupe armée 3R de la ville et y rétablir la sécurité. Dans un communiqué, la force de l'ONU indique que les objectifs initiaux de l'opération ont été atteints. L'effort en cours vise à sécuriser la ville et ses environs afin d'empêcher le retour à Bukaranga des 3R et d'autres éléments et groupes armés, y compris les anti-Balaka. Cette action vise à assurer également la protection de la population civile. Une partie a trouvé refuge autour de sa base sous la garde vigilante des casques bleus. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide Adama Dieng, en visite dans le pays, s'est dit profondément préoccupé par la nouvelle flambée de violence. Bukaranga a été le théâtre de récentes violences. L'opération de la MINUSCA devra également toucher la localité de Bang dans le nord-ouest. Les groupes armés s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles comme les diamants, l'or, le bétail et dans d'intenses luttes politiques pour accéder aux maigres ressources du pouvoir.
Et pour terminer, la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, a souligné ce lundi l'importance du développement du secteur rural pour atteindre l'objectif fixé par la communauté internationale d'éliminer la faim et la pauvreté d'ici 2030. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.